remue-ménage. Remue-ménage, c'est Ondes Femmes sur Radio Zone 93,8 tous les mercredis en direct de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue-ménage sur Radio Zone 93,8. Bonjour et bienvenue dans Ondes Femmes, Radio Zone 93.8. Et comme tous les mercredis de 17h à 18h30 en direct, eh bien c'est Remue-ménage. Et comme une fois par mois dans Remue-ménage, aujourd'hui nous avons rendez-vous avec nos amis Annette Zimmermann et Evelyne Merlard, nos amis de la librairie des femmes L'Inédite à Genève. Annette, Evelyne, bienvenue et bonjour.
Bonjour Catherine.
Alors cette semaine, peut-être pour juste annoncer à nos auditrices et nos auditeurs de quoi nous allons parler, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les livres dont vous allez nous parler aujourd'hui ?
Alors moi j'ai choisi un livre dont le titre est « Une saison à Bratislava », qui est entre autres présenté par Simone Signoret, mais évidemment la personne importante ce n'est pas Simone Signoret, même si elle est plus célèbre que l'autrice, qui est Jo Langer, là donc, qui fait une autobiographie dans ce livre.
Donc c'est sa propre histoire, un témoignage de sa propre histoire. Actuelle, j'imagine. Récente, je veux dire.
C'est pas tout à fait récent, mais c'est peut-être d'autant plus intéressant à cause du fait qu'effectivement, cette femme, on la découvrira, elle est née en fait en 1910 et elle nous raconte toute son histoire jusqu'en 1981.
D'accord, ça c'est pour tout à l'heure. Evelyne, toi aussi tout à l'heure, qu'est-ce que tu nous proposes de découvrir ?
Moi, je vous propose de découvrir Jenny Marx, ou la femme du diable, la femme de Karl Marx.
Le diable, Karl Marx.
Un portrait d'elle qu'a fait Françoise Giroux, qui vient de sortir aux éditions Robert Laffont, dans la collection « Elle était une fois ». C'est curieux parce que l'auteur dont va parler Annette est certainement une des victimes, entre guillemets, je dirais, des applications des théories de Karl Marx. Juste un petit clin d'œil comme ça. Oui,
on dira des applications abusives.
Oui, abusives. Alors, c'est les deux livres que vous allez découvrir tout à l'heure, en compagnie d'Annette et Evelyne, nos amies de la librairie des femmes L'Inédite à Genève, rue Cardinal Mermillot, pour celles qui n'y seraient toujours pas allées, mais ça semble assez improbable, j'espère en tout cas. Et tout de suite, pour nous mettre un peu dans l'ambiance de la musique écrite et chantée par des femmes, eh bien c'est Gianna Nannini.
Sembra ieri o forse oggi o non è mai che sento battere il mio cuore un po' più giù. Mi stronchi l'anima in un fondo di caffè. Mi fumo l'anima, sto volando in te. Ho nuove vite, nuove code, l'energia. Mi sento in trappola e va il diavolo la vita mia. Mi graffi l'anima quando mi tocchi. ancora qui, spiriti e menti. Danzano con me, spiriti di amanti che non hanno le. Adesso l'ora, forse l'ora, come si fa? La notte cola, puoi leccare i piedi suoi.
Nous abandonnons l'Italie pour nous retrouver en Tchécoslovaquie, plus précisément en Slovaquie, puisque c'est de Bratislava qu'il s'agit dans ton livre, Annette, Une saison à Bratislava, livre écrit par Joe Langer.
Alors, Joe Langer est une personne que je ne connaissais pas du tout, et en découvrant ce livre, qui est donc une publication actuelle dans le livre de poche, enfin dans une édition de poche de Point Actuel, c'est en fait une réédition. Ce livre a été édité déjà en 1981, au Seuil, mais donc dans une édition beaucoup plus chère. Alors, c'est un livre qui est actuellement, au point de vue prix, donc accessible à toutes les bourses, et je ne peux que le recommander très très chaudement. J'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant et passionnant de prendre contact avec cette femme et de la connaître d'une part parce que au travers des pages, on découvre quelqu'un d'extrêmement chaleureux, d'extrêmement dynamique, d'extrêmement courageux aussi. Et en même temps, il y a une quantité d'informations historiques tout à fait revues et corrigées, si je puis dire, qui sont pour nous extrêmement riches et intéressantes. Alors, en fait, je vais peut-être présenter d'abord la façon dont le livre a été écrit et ensuite je vous raconterai quelques éléments de la vie de Joe Langer. J'espère que vous le découvrirez plus tôt en lisant le livre, qui est d'ailleurs assez long, qui compte 320 pages. Donc ce livre a pu être publié en France grâce à l'appui de Simone Signoret, qui a aidé à la traduction, mais qui était elle-même soutenue par un linguiste anglophone, parce que c'est une traduction de l'anglais. Vous me direz, mais pourquoi l'anglais? Puisqu'on parle de Bratislava, on parle de la Slovaquie, et cela fait partie de la biographie de cette femme qui a vécu en Slovaquie, bien sûr, mais qui est née d'abord en Hongrie, à Budapest, qui a vécu 10 ans aux États-Unis pendant la Première Guerre mondiale, puisqu'elle était juive et qu'elle a dû fuir son pays et qui ensuite, puisqu'elle était devenue bilingue par la force des choses, a évidemment utilisé souvent l'anglais dans la communication internationale et notamment dans la publication de son livre dans les années 80.
Mais Annette, qu'est-ce que Simone Signoret avait à faire avec Jo Langer?
Alors voilà, en fait Simone Signoret est la petite cousine de Jo Langer. Il y a dans les tantes par alliance de Simone Signoret, donc du côté de son père, une branche de la famille qui était donc hongroise et qui était, donc de cette manière-là, elle est alliée à Jo Langer. Mais effectivement, les familles s'étaient complètement distancées au moment de la guerre. Et en fait, Simone Signoret savait très vaguement qu'il y avait dans une branche de sa famille hongroise qui avait été persécutée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et incidemment, elle a rencontré Jo Langer, enfin pas tout à fait incidemment, c'est-à-dire que Jo Langer était mieux au fait de sa parenté avec l'actrice célèbre qui était Simone Signoret, qui était effectivement assez active à un certain moment de sa vie, comme on le sait, dans les mouvements de gauche et notamment dans ses contacts avec les artistes de l'Union soviétique ou des pays satellites. Elle est allée à Prague en 1957. Et à ce moment-là, sa cousine de Bratislava, donc notre héroïne, a essayé de la contacter pour lui faire part des gros problèmes qu'elle avait. Et en fait, Simone Signoret n'a pas écouté sa cousine, qui effectivement mettait en cause l'engagement à ce moment-là de Simone Signoret, qui n'était pas encore tout à fait consciente probablement des gros problèmes des fameuses purges staliniennes.
Oui, ça, je crois qu'effectivement, pendant longtemps, Signoret et Montand ont fait des visites en Union soviétique comme signe de leur soutien au communisme
soviétique. Et c'est suite à ça, quand Simone Signoret et Montand se sont rendus compte quand même d'erreurs d'appréciation, au moins, ça a donné d'ailleurs lieu au livre de La nostalgie n'est plus ce qu'elle était, qui est aussi d'ailleurs, il faut le dire, un excellent document. Et quelques années plus tard, donc ce dont je parle, c'est en 57, elle a tourné le dos à sa cousine. En 1980, Jo Langer avait donc écrit son livre et l'a quand même envoyé à Simone Signoret en se disant qu'effectivement, si cette cousine célèbre s'occupait un petit peu d'elle, il y avait plus de chances d'être publiée. Et à ce moment-là, 1980, Simone Signoret avait beaucoup changé, a reçu ce livre et s'est dit, en fait, c'est peut-être le moyen de me faire un petit peu pardonner mon attitude ou de participer à quelque chose qui est une reconstruction. Et dans ce sens-là, elle s'est donc battue pour faire publier ce livre parce que Jo Langer n'a écrit que cette biographie, cette autobiographie, et n'est pas en fait une femme de lettres. C'est un témoignage qu'elle fait sur sa vie et qui est, je pense, donc je l'ai dit, très intéressant et qu'on ne peut que reconnaître comme assez extraordinaire.
Jo Langer explique dans ce sens-là pourquoi elle a eu envie d'écrire, puisqu'elle n'est pas effectivement femme de lettres, tu le dis. Quel était pour elle le sens alors de l'écriture?
Elle a écrit essentiellement, elle ne le dit pas très explicitement, mais elle a vécu tellement de bouleversements politiques autour d'elle. Le dernier en date, ça a été donc le printemps 68 dont elle parle en Tchécoslovaquie. Je n'ai pas, je dois dire, de nouvelles de Jo Langer après les années 80. Je ne sais pas si elle est décédée et je ne sais pas si elle a pu en tout cas entendre parler ou connaître le printemps de Prague récent, celui de 80, enfin plutôt, c'est plutôt l'hiver de Prague, hein, la révolution de velours de 1989, qui est quand même nettement plus prometteuse avec Havel que ce qui s'était passé en 68, puisque ça, cette tentative du printemps de Prague de 68 a duré exactement 4 mois. C'est le dernier événement politique dont parle en fait Jo Langer dans son livre. Ça a été pour elle une telle déception et en même temps une telle confirmation de ce qu'elle soupçonnait dans le régime, qu'elle s'est dit « maintenant je dois parler ». Je pense que c'est ça qu'elle dit simplement. Il faut une fois que je témoigne, parce qu'elle a dû donc de nouveau s'exiler de son pays. Le livre qu'elle écrit donc en 1980, elle l'écrit en Suède.
Alors peut-être est-ce important de décrire quels sont les événements qui vont la conduire à écrire et qu'elle rapporte surtout?
Voilà, tout à fait. Donc en fait, il faut faire un petit effort de retour en arrière quand on lit cet ouvrage, parce qu'en fait, cette dame, c'est une dame âgée qui nous parle. Et elle fait sans arrêt des petits retours en arrière où elle plonge dans l'avenir. Donc c'est un livre qu'il faut lire avec, en ayant toujours à l'esprit les différentes dates des différents chapitres dont elle parle. Alors pour la commodité de l'émission, je vais peut-être reprendre sa vie dans l'ordre chronologique, mais dans le livre, on la découvre plutôt par couches concentriques, hein, ça c'est sûr. En fait, donc Jo Langer, comme je l'ai déjà dit, est une jeune Hongroise. Elle est née en 1912 à Budapest et sa famille était donc juive, pas extrêmement pratiquante, mais enfin, c'était des gens qui étaient d'origine juive depuis des siècles. C'était donc des gens bien placés, des bourgeois, et à cette époque-là, c'était déjà c'était le début d'une révolte quand même contre ces... disons, les privilèges dont ces bourgeois pouvaient jouir à Budapest. C'était très in, surtout pour les adolescents, de se piquer de socialisme ou d'idées nouvelles. Et elle, on le sent, il y a quelques pages qui sont en fait dans ce livre. Un souvenir qu'elle a retrouvé, c'est son journal quand elle a 19-20 ans. Elle raconte le passage de la maturité et comment elle refuse à ce moment-là de faire des études parce qu'elle veut un petit peu vivre par elle-même. Et elle travaille dans un bureau, elle refuse d'entrer à l'université au grand dam de sa famille. Elle est déjà effrontée, elle a déjà un sens de l'humour très très grand et puis elle veut faire à sa tête. Et dans ce sens, c'est à ce moment-là qu'elle rencontre, donc, d'abord par correspondant, celui qui deviendra son mari, donc Oskar Langer, qui a été un communiste convaincu et très actif après la guerre en Tchécoslovaquie, mais qui donc a payé très cher son engagement, puisqu'il a été, c'est le corps du livre lui-même, emprisonné dans les geôles tchécoslovaques, dans les fameuses purges de 1950. Donc elle fait la rencontre de son mari parce qu'elle s'intéresse aux idées socialistes, lui il est déjà communiste, et en 1900, dans les années 34-35, il se marie et elle le rejoint à Bratislava. En fait, lui, il est slovaque, et à Bratislava, il faut peut-être aussi se rendre compte qu'à cette époque-là, on parlait toutes les langues. Et que Bratislava n'était pas une ville où on ne parlait que le tchécoslovaque, on parlait le slovaque, le tchèque, le hongrois, l'allemand, éventuellement encore un peu le russe, ou je ne sais quel idiome de ce côté-là. Donc il y avait énormément de communication entre les gens, et elle a appris un petit peu le slovaque à ce moment-là, mais elle parlait hongrois avec son mari, qui était aussi d'origine hongroise, mais habitait la Slovaquie. Alors le début de l'histoire, c'est donc un mariage d'amour, ils ont rapidement un enfant et ils sont tous les deux extrêmement passionnés avec l'idée que le nouveau socialisme, le nouveau communisme saura apporter l'égalité à tout le monde et une magnifique justice pour tout le monde. Ils sont extrêmement exaltés et ils sont sûrs qu'ils ont que tout ira bien. D'abord pour la Tchécoslovaquie et ensuite pour l'Europe entière. Donc là, ils sont absolument convaincus. Ils sont rapidement donc désorientés par la montée du nazisme et doivent fuir la Tchécoslovaquie en 1938 puisqu'ils sont les deux juifs et qu'ils n'ont pas d'autre choix que l'exil.
Et que la Tchécoslovaquie est donc envahie par les nazis.
Envahie par les nazis, voilà. Et leur famille d'ailleurs sera massacrée. Alors il y a donc au début du livre un petit passage où elle raconte comment elle s'est d'abord adaptée à la vie américaine. Elle a dû partir là-bas parce que l'exil pour eux ça a été les New York, les USA. Ils sont partis avec une petite fille, ils ne savaient pas un mot d'anglais et ils n'avaient naturellement pas grand-chose comme connaissance professionnelle à part l'idéologie marxiste. C'est pas tout à fait
une profession.
Lui était sociologue, elle secrétaire en fait, hein. Et ils n'avaient donc pour ainsi dire pas beaucoup de cordes à leur arc pour subsister aux États-Unis. Alors là, c'est là qu'on commence à se rendre compte à quel point cette femme est dynamique et pleine d'idées. Elle arrive à subvenir aux besoins de la famille. Elle est d'abord serveuse de bistrot et finalement, elle travaille dans une bibliothèque. Elle apprend très, très rapidement l'anglais. Son mari a beaucoup de peine à apprendre l'anglais. C'est un peu ce qu'on pourrait dire un crypto-communiste, dans le sens que...
Déjà en 1950
oui. Non, ça c'était dans... C'était, alors attention à la date, c'est 1940. Mm-hmm. Effectivement, il est très opposé au système américain. Il est évidemment extrêmement choqué par les événements politiques de la guerre, notamment par le fait qu'à un moment donné, Staline avait d'abord fait une alliance avec l'Allemagne et ensuite a coupé tout ça. Ça a été très, très difficile. Pour lui, il ne comprend rien à ce qui se passe. Et on dirait qu'il n'a pas les moyens d'analyser tout cela. Alors elle se bat essentiellement pour manger normalement, pour avoir un appartement agréable, pour élever sa petite fille le mieux possible. Pour elle, ce qui compte, c'est la vie quotidienne. Et tout le reste du livre, d'ailleurs, est à l'image de cette première approche qu'on a de Jo Langer, c'est que c'est une femme d'abord chaleureuse et pour qui les théories ne sont pas importantes. Ce qui compte, c'est de vivre le mieux possible, mais dans la simplicité et dans la communication avec l'autre. Et c'est un peu en résumé son credo, si je puis dire. Alors effectivement, on sent très bien qu'au début, elle était extrêmement convaincue par son mari ou avec lui de lutter pour une cause. Plus elle avance dans la vie, plus elle se dit ce qui compte, c'est les relations humaines, plutôt que défendre à tout prix une idée.
Nikdy na sekeru neviděli, co se děje, když má lampa bliká. Chtěli holku, co se směje, holku, co se slíká. Co se slíká. A tak se jednou stalo, když mě s tým už svlékl, že má petrolejka blikla naposledy. Ten pán se mi vysmál, pak se trochu lekl, to když cítil místo tepla chladné ledy. Smutně jsem se rozloučila s tím posledním pánem, poprvé jsem tehdy pila.
Ce jour-là, les lilas étaient en fleurs des deux côtés de la rue étroite, et par endroits, on pouvait déjà reconnaître le parfum des jasmins qui venaient d'éclore. Nous grimpions la colline et au fur et à mesure, on redécouvrait la ville superbe, il s'agit donc de Bratislava, ses environs et le Danube à nos pieds. Cette escapade en famille aurait dû me réjouir. J'étais pourtant mécontente et mal à l'aise. Depuis presque une heure, mon mari et moi n'avions pas échangé une parole. Le landau avec le bébé endormi était dur à pousser dans la montée. Suzy est arrivée à un âge où l'on ne se montre guère serviable et compréhensif envers son prochain et encore moins envers ses parents. Elle marchait à quelques pas de nous, affichant un ennui mortel. Je ne la blâmais pas, seulement j'aurais bien voulu que l'un d'entre eux deux m'aide à un peu à pousser le landau. Mon mari était plongé dans ses réflexions. Qu'il fût physiquement présent à mes côtés, mais pourtant absent, n'était pas nouveau en soi. Mais cette fois-ci, il n'était pas seulement taciturne. Il avait l'air triste et abattu. Je ne lui demandais pas de m'aider pour éviter de déclencher une de ces disputes habituelles au cours desquelles je finissais toujours par lui reprocher son indifférence et son manque de coopération pour les problèmes familiaux et qui l'amenait, lui, à me reprocher la vision irrémédiablement mesquine que j'avais de la vie politique. Alors, comme ce jour-là, il me faisait de la peine, je gardais le silence et la dispute se passait dans ma tête. Donc, tu n'as rien à me dire. Pourquoi alors as-tu tant insisté pour venir? La gosse va avoir 3 ans et c'est la première fois que tu te promènes avec nous. Je sais que tu n'as jamais le temps, mais je me souviens de tant de samedis et de dimanches où je me promenais dans le parc, m'asseyant toute seule sur un banc, d'abord avec mon premier enfant, puis ensuite avec mon deuxième.
Vodili mne do expresa, tam v pološeru pili s džinem, vůni lesa, někdy na sekeru.
Annette, alors est-ce à dire que Joe Langer et son mari ont quitté les États-Unis et sont rentrés à Bratislava?
Exactement, bonne déduction. Effectivement, j'arrive maintenant au corps du livre, donc, qui se passe dans les années 50 à 60. Nous sommes donc en 1950, là, 51. Les Langer ont eu une deuxième petite fille, donc c'est l'enfant dont on dit qu'elle a 3 ans. L'aînée, donc, à peu près 10 ans. Ils sont de retour à Bratislava depuis 2 ans et en fait la vie, au lieu de s'améliorer pour eux, est devenue de plus en plus difficile. Elle relate dans ce petit passage qu'elle sent que son mari est triste et abattu. Il a des raisons bien précises de l'être, il a été déjà l'objet de menaces, sa femme l'ignore, mais il sera arrêté quelques semaines plus tard. Brutalement mis en prison, elle ne le reverra plus pendant 2 à 3 ans. Ensuite, elle aura une ou deux fois, quelques fois l'occasion d'aller dans les prisons pour le retrouver, le voir, lui envoyer éventuellement quelques messages. Mais en fait, pendant 10 ans, ils seront séparés.
Quand il est dans le texte que tu nous as lu, il lui reproche de ne pas comprendre, de ne pas analyser ou avoir une vision mesquine de la situation politique. Est-ce que son séjour aux États-Unis l'a distancé de sa prise de conscience politique à elle? Pourquoi elle ne comprend rien? Pourquoi il ne lui parle pas, lui, des menaces dont il fait l'objet?
Alors, elle l'explique bien tout au cours du livre, justement, que les contacts, disons, affectifs, amoureux entre eux, ont commencé à se dégrader un petit peu. Et que c'est dans ce sens-là, la confiance réciproque n'existait plus tellement entre eux deux. Et que, effectivement, comme leur couple n'était plus ce qu'ils avaient rêvé ensemble. Et que d'autre part, lui s'était lancé dans l'action politique et tout ce qui comptait, ce n'était plus que cela. Sa famille, en fait, prenait de moins en moins d'importance si elle en avait eu un jour. Ça, c'est paix à ses cendres. Hein. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé dans les détails. Mais effectivement. Il faut aussi penser que le climat qui commençait à régner, dont elle se rendait compte, mais qu'elle ne voulait pas s'avouer, ensuite elle a été obligée de vivre là-dedans, c'était vraiment la suspicion totale et complète. On ne peut faire confiance à personne et ça crée un tel état d'esprit difficile à vivre que, effectivement, peut-être même entre les conjoints, on n'arrive plus à se parler. Et je crois que c'est d'ailleurs, c'est pas seulement dans ce livre, hein, tout ce qu'on lit autour de ces difficultés-là, c'est probablement ce qui restera de plus dramatique actuellement de ces situations-là, c'est que les gens ont vécu dans la peur de la délation absolument continuellement et qu'on ne peut plus être naturel, on ne peut plus être, j'ai envie de dire, normal. Parce que on a toujours peur d'être dénoncé. Et toute la suite du livre, au moment où donc son mari est dénoncé comme quelqu'un qui a trahi la cause, uniquement pour des raisons d'apparatchnik, hein, si on peut dire. C'est-à-dire qu'on a décidé que lui était trop pur et dur dans un certain sens, alors on le met en prison. Et dans ce sens-là, elle, elle est tout de suite considérée évidemment comme la femme d'un traître. Tous ses amis lui tournent le dos. Elle ne trouvera plus personne pour l'aider. Elle est dans une situation absolument dramatique. Elle ne peut plus gagner sa vie avec son métier. Elle était donc une bonne secrétaire. Comme elle connaissait très bien l'anglais à l'époque, probablement, enfin, mieux que tout le monde dans les bureaux, elle travaille comme traductrice. Elle ne pourra plus utiliser cette possibilité-là. Elle sera obligée d'aller travailler en usine pendant un certain temps. Et dans ce sens-là, elle ne peut plus compter sur personne. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qui transparaît dans ce livre tout au cours de la lecture et qui fait très peur et qui, en même temps, est quelque chose qui est quasi insoutenable.
Nechávali-vous vůbec, co se se mnou děje. Lásku totiž vůbec nikdy neviděli. Vodili mě do expresa, tam v pološeru pili s džinem vůni lesa, někdy na sekeru. Neviděli, co se děje, když má lampa bliká. Chtěli holku, co se směje, holku, co se slíbí.